2.0. Chers auditeurs, bonjour. Oui, vous avez bien entendu, Femme 2.0. C'est une émission qui nous est, je dirais, offerte par la présence de Laetitia Pouliquen. Bonjour Madame Pouliquen.
Bonjour Madame Brochet.
Alors, vous êtes déjà venue plusieurs fois en nos studios. Merci d'être si fidèle et de nous faire partager aujourd'hui votre réflexion. La réflexion à propos du livre que vous venez de sortir, Femme 2.0. Féminisme et transhumanisme. Alors, avant de plonger dans le sujet, de faire découvrir la force de votre argumentation aux auditeurs pour leur donner vraiment l'envie de lire votre livre, Laetitia Pouliquen, vous êtes mère de famille de 4 garçons. Vous avez été femme d'affaires vraiment dans un environnement technologique américain pendant plus de 10 ans. Vous avez été assistante de recherche à la Harvard Business School of Boston. Et puis de retour en Europe, là c'est la reconversion, vous avez plongé dans la bioéthique, vous avez fait un master en bioéthique. Pourquoi la bioéthique vous a-t-elle attrapé, j'allais dire?
La bioéthique m'a attrapée parce que j'avais cette intuition qui m'habitait depuis toujours, que la femme, dans son corps, portait un message particulièrement fort, que ce jaillissement de vie avait un sens. Si bien que mon mémoire a porté sur l'identité féminine. La question qui se posait, c'est: existe-t-il une anthropologie spécifiquement féminine, un agir féminin, un être femme, comme le dit Edith Stein? Alors, à la suite de ce master, j'ouvre un site, un blog qui s'appelle Women Attitude, qui m'a amené à donner un certain nombre de conférences au Parlement européen. Et je cherchais et je cherche toujours d'ailleurs, à y promouvoir un féminisme décomplexé, qui repose sur le réel, celui de l'égalité entre les sexes, l'égalité en droit et l'égalité en dignité, la complémentarité homme-femme, ainsi que l'altérité que l'on trouve dans la vie conjugale.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes féministe ?
Très profondément, dans toutes les fibres de mon être, au sens où je cherche à ouvrir, comme un certain nombre d'entre nous d'ailleurs, cette troisième voie du féminisme qui assume pleinement cet être femme, sans le vivre comme un joug, finalement, un frein à mon développement et à mon épanouissement personnel. Les grands sujets du féminisme au Parlement européen sont systématiquement sur l'égalité en droit, sur la parité, sur l'égalité salariale et sur mon corps m'appartient, les droits à l'accès à la contraception et à l'avortement pour tous. Ces sujets-là, pour moi, sont nettement insuffisants. Parfois non consensuel d'ailleurs, et nettement insuffisant par rapport à la réflexion qui s'offre à nous, avec tout ce que nous savons en termes de psychologie, d'anthropologie et de philosophie aujourd'hui.
Alors, vous parlez de troisième voie, les deux autres voies, c'est quoi ?
C'est le féminisme radical, et c'est ce qu'on appelle le French feminism, donc le féminisme radical qui est celui des femmes dans la rue, par exemple, qui détestent profondément par toutes les fibres de leur être l'homme, me semble-t-il. Et puis ce French feminism que promeut Judith Butler, par exemple, à partir des années 80, avec ce que l'on appelle les études de genre et ce que nous appelons l'idéologie du genre, parce que c'est bien une idéologie qui consiste à dire que le sexe et le corps n'ont rien à voir avec ce que je suis, je m'autodétermine, je fais ce que je veux de mon être sexué. Et donc je peux être un homme aujourd'hui, une femme demain. Aujourd'hui, à l'ONU, on détermine 52 genres différents. Donc, je vous passe la liste.
Quels sont les principaux genres différents?
Alors, c'est ce qu'on appelle les LGBTI, donc les lesbiennes, bisexuelles, gays, transsexuelles et intersexuelles. Ça, c'est l'acronyme qui est régulièrement utilisé au Parlement européen, LGBTI.
Alors, vraiment avec un lobby très très puissant pour faire passer certaines idées. Et donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que l'idéologie du genre ou l'idéologie du LGBTI, ce ne sont que des idées, mais qui déstructurent la société peut-être et qui font quelque part, qui mettent à mal l'être réel de la femme.
Alors, c'est exactement l'idée. Vous résumez très bien mon livre, d'ailleurs. Je vous en remercie. Donc, Femme 2.0, Féminisme et Transhumanisme. Je fais une petite parenthèse, car le livre est disponible à l'UOPC ou bien sur Amazon, si vous ne voulez pas vous déplacer. Voilà, petite séance pub. Vous résumez très bien. Mon intuition était que tous ces agendas politiques, ces mouvances idéologiques, celles du début du siècle avec la libération de la fécondité du corps de la femme, celles qui affranchit et qui permet à la femme de jouir de son corps de la même manière qu'un homme, grâce à la contraception. On voit aujourd'hui des pilules contraceptives qui ne cessent pas, donc il n'y a plus de menstruation. Donc cette déconnexion complète de la notion de temps du corps, de la même manière l'avortement qui est en hausse en Belgique constamment, et puis enfin la hausse de la FIVET, de l'usage du recours aux techniques de procréation médicalement assistée pour concevoir les enfants, permettant à la fois du séquencement génétique et donc du tri et donc de rentrer dans une logique embryonnaire, et puis à la fois parfois pour simplement des raisons de confort. Les lesbiennes, par exemple, font appel à la fécondation in vitro. Idem, évidemment, pour les homosexuels qui, eux, vont jusqu'à mélanger leur sperme pour ne pas savoir qui est l'homme. Voilà.
Et faisant appel éventuellement à un tiers porteuse.
Exactement, un tiers donneur pour l'ovocyte, qui est souvent, d'ailleurs on voit dans les pratiques, c'est souvent une bonne copine, et la bonne copine en question qui va porter aussi l'enfant, ce qui va créer des situations familiales très ambiguës. Donc destruction, fragmentation du corps et de la sexualité par ce premier agenda, politique du « mon corps m'appartient », qui est ce slogan que nous retenons des années 70. Et puis, ce deuxième agenda que nous venons déjà d'évoquer, qui est la promotion des droits au nom de la non-discrimination de l'orientation de genre. Ça transparaît dans tous les textes du Parlement, et nous y voyons une grave atteinte, une grave discrimination à l'égard de la femme dans sa maternité en particulier.
Laetitia Pouliquen avec nous sur RCF pour nous parler de son livre « Femme 2.0, féminisme et transhumanisme ». Laetitia Pouliquen, vous parlez d'un troisième agenda aussi. Vous voulez dire quoi ?
Alors, c'est là que la voix entre guillemets prophétique, c'est très présomptueux de ma part, mais se situe. En conséquence de ces deux agendas, qui le premier fragmente la femme de sa fécondité, le deuxième fragmente l'humanité tout entière, la déconnecte de son sexe, déconnecte le corps du sexe, eh bien, le transhumanisme, me semble-t-il, qui est un courant de pensée international, qui vise à une réelle révolution de la condition humaine, à s'affranchir de la contingence du corps, par le biais des technologies, va provoquer une déconnexion profonde entre le fini, le corps, et son âme, l'infini. Il s'agit là de repousser la mort, alors par des moyens divers et variés comme le téléchargement de la conscience, et j'aimerais bien qu'on parle des technologies. Et il s'agit en fait d'une utopie démiurge, totalement démiurge, où l'homme devient auto-créé et auto-normé.
Ça, c'est le transhumanisme. Oui. Tout à fait, quelque part, en lien avec les deux premiers courants que vous aviez mentionnés.
C'est une résultante. Et on le voit bien au Parlement européen aujourd'hui, puisque le rapport Delvaux, qui a été adopté en commission juriste.
Alors, rapport Delvaux, c'est une députée belge?
Non, c'est une députée luxembourgeoise, oui, qui a une très forte voix dans les médias belges, qui est une députée socialiste et donc qui s'est saisie d'un sujet éminemment anthropologique, éminemment difficile, qui sont les règles civiles des robots.
Et donc, les règles civiles des robots. Voilà. Et donc, ça veut dire
sous couvert en fait de vouloir créer une législation, un cadre juridique à la robotique, en particulier concernant les robots autonomes et prenant des décisions tout seuls et en interaction avec un certain nombre d'entités ou de personnes à l'extérieur. Je pense aux robots soignants, par exemple. Je pense à, évidemment, l'automobile sans conducteur. Nous pensons aux drones, nous pensons aux forces de sécurité. Nous pensons aussi à tout ce qui touche à la chirurgie, aux soins. Ces robots, selon Madame Delvaux, devraient acquérir une personnalité juridique.
Ça veut dire qu'ils seraient responsables de leurs actes?
Et c'est exactement ça. Exonérant l'homme, qu'il soit le fabricant, l'utilisateur, le propriétaire, de leur responsabilité juridique. Il y a déjà eu des cas où des robots en Allemagne ou en France ont tué par inadvertance des personnes, par une mauvaise manipulation.
On les a tués, eux ? On les a détruits, ces robots, alors ?
On les a pas détruits, non, ils ont continué de... C'était des automatismes, hein. Mais justement, dans quelle mesure un automatisme qui est un objet, une chose, un actif, un bien, peut-il acquérir une personnalité juridique ? C'est une pure fiction, et sous couvert de vouloir contingenter l'intelligence artificielle qui est permise par les technologies que l'on voit aujourd'hui, et il y a de réels dangers, tous les grands scientifiques s'alertent de ceci, quand on prend Hawkins, par exemple, l'astrophysicien, quand on prend Elon Musk, le fondateur de Tesla et qui a monté le consortium SpaceX, donc Space X, qui cherche à peupler la planète Mars. Ces gens-là disent l'intelligence artificielle est un réel danger. Aujourd'hui, il pourrait y avoir réellement des activités diaboliques dans, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Elon Musk, dans l'intelligence artificielle. Donc il y a un réel besoin. En revanche, le Parlement européen apporte de très mauvaises réponses à un sujet qui est extrêmement, éminemment dangereux.
Alors la femme augmentée, ce serait quoi, donc, selon eux ?
Alors la femme augmentée, dans l'idéologie transhumanisme, évidemment, hommes et femmes, c'est kif-kif burrico, comme on dit dans mon pays. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus de distinguo et cela est rendu possible par les technologies. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle des NBIC, nano, bio, technologie de l'information et technologie cognitive, le N représente donc les nanotechnologies qui sont dans l'infiniment petit. C'est l'usage de nanométaux à l'échelle de 10-9 mètres. Par exemple, le SpermBot, qui est un robot qui est une hélice en métal qui va entourer le spermatozoïde, va augmenter la motilité, c'est-à-dire la capacité de bouger, de se rendre dans les trompes de Fallope pour féconder l'ovocyte. La seule question que je pose, c'est nous ne sommes pas capables d'évaluer la nocivité et le passage éventuel dans la barrière placentaire de cette petite hélice en métal. Donc vous voyez, l'effet sur le corps de la femme est absolument immédiat.
Et de l'embryon aussi.
Et de l'embryon, absolument, merci de le rappeler, est absolument parable. Quand on parle des biotechnologies, c'est un marché de 270 milliards d'euros aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et les projections sont colossal. Donc là, j'attire l'attention de l'auditeur sur le fait que nous sommes sur un marché à marche forcée en termes à la fois d'évolution et en termes de développement capitalistique. Le nombre de sociétés qui ont dépassé le milliard d'euros valeur capitaliste et de valeur boursière est absolument phénoménal. On voit vraiment une accélération.
Ça, c'est le nano.
Et ça, ce sont les bio, pardon. Je suis passée aux biotechnologies. Okay, bio, les 270, oui. Ce sont les biotechnologies. Oui, oui. Et ça recouvre toutes les modifications d'organismes vivants, donc évidemment, dont l'homme fait partie. Et alors là, le point saillant, c'est que on est dans une approche soit de restauration, pardon, c'est-à-dire de réparation de l'homme, de tissus défectueux. Et là, c'est absolument fantastique. On fait de la rétine artificielle, on fait du développement par cellules souches de foie. Donc, il y a vraiment un champ extraordinaire. Pareil pour les nanos, d'ailleurs. Le nanodiagnostic, quelque chose d'extraordinaire, à part le problème de la nocivité. Et puis, après, il y a tout le champ de l'augmentation. Tout le champ de l'augmentation est, me semble-t-il, à contrer, à combattre. Car là, on rentre dans un eugénisme social, dans un eugénisme normatif, avec toutes les injustices qu'il génère. On devient capable aujourd'hui par les technologies, quand on prend CRISPR-Cas9 par exemple, mais c'est l'une d'entre elles, de fragmenter un bout d'ADN, un brin d'ADN. Un enzyme est capable d'aller se positionner au bon endroit de la chaîne d'ADN pour aller le couper. C'est la technologie du copier-coller finalement. Et d'aller en mettre un brin d'ADN, un gène à sa place. Ces applications thérapeutiques sont parfois extraordinaires, mais ce contre quoi je mets en garde au Parlement nos politiques qui sont assez peu formés sur le sujet. Laurent Alexandre, qui est vraiment un héros du transhumanisme, dit que les politiques sont analphabètes sur le plan technologique. Et bien là, sur les manipulations de l'ADN, nous pourrions rentrer dans une logique où l'ADN humain serait modifié artificiellement pour les générations à venir, c'est-à-dire complètement. On rentre dans ce que Jacques Testard appelle la fabrique de l'humain calibré.
Dieu est dans nos villes,
Dieu est dans nos villes,
Dieu est sur nos places,
Dieu est sur nos places,
Dieu est dans nos hymnes,
Dieu est dans nos hymnes,
Dieu est sur nos traces,
Dieu est sur nos traces,
notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas.
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas.
Dieu dans notre histoire,
Dieu dans notre histoire,
Dieu dans notre temps,
Dieu dans notre temps,
Dieu dans nos mémoires,
Dieu dans nos mémoires,
Dieu est là partout présent,
Dieu est là partout présent.
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas.
Notre Dieu.
Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant.
Dieu est dans nos yeux.
Alors Laetitia Pouliquen, nous repartons sur ce morceau de Glorious, nous dansons, notre Dieu est avec nous. Ok, par rapport au transhumanisme, vous nous avez détaillé les nanotechnologies, les biotechnologies, les dangers de chacun, mais aussi la beauté de la science. Et puis alors il reste l'informatique et le cognitif pour faire le tour de NPIC. Alors l'informatique.
Merci. L'informatique, très brièvement, ce qui me semble être le plus impactant sur l'identité de la femme, ce sont tous les robots, en particulier les robots d'accompagnement qui peuvent, Buddy par exemple, c'est un petit robot qui coûte $600 et qui est disponible en France maintenant, qui permet de jouer, de surveiller votre enfant. Alors, caméra, capteur, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans quelle mesure l'enfant est content d'avoir un petit robot avec lequel jouer, suppléant la maman qui est au bureau, en train de travailler, je pose la question. Ce robot sera capable à terme de prendre sa température, de l'accompagner à l'école, etc. L'autre type de robot sont les robots sexuels. Les robots sexuels, ça a fait un tabac à Londres au mois de décembre dernier, il y a eu un salon. Et donc, c'est génial. La femme peut faire absolument ce qu'elle veut à un robot sexuel, ce qui n'est pas le cas avec un homme. Sur le plan du cognitif, alors tout ce qui touche à la stimulation la concentration et de la mémoire, vous voyez, j'en aurais bien besoin, la Ritaline, le Synapsil, qui sont le Viagra de notre cerveau, si vous voulez. Ça, c'est régulièrement utilisé déjà en Californie. Et aujourd'hui, on parle même de faire des implants en nano dans le cerveau directement pour faire de la stimulation cérébrale profonde et d'aller chercher de la mémoire et de la concentration qu'on n'a pas naturellement dans un objectif de résistance à l'effort intellectuel et de régulation des humeurs. Donc vous voyez qu'on est vraiment...
Ça peut être pratique aussi quand le mari est de mauvaise humeur.
Ah non, mais c'est top. On est absolument d'accord. Justement, c'est un très bon point que vous soulevez. L'appétence aux technologies, rien ne pourra y mettre un frein. Et ça me permettra de faire la transition avec l'aspect politique. Mais on est vraiment aujourd'hui dans le mythe du surhomme et de la productivité. Et moi, ce que je dénonce, c'est qu'on est dans le faire versus l'être.
Et aussi peut-être le refus de toute zone d'inconfort, de toute notion de souffrance.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. C'est le contrôle de l'homme par l'homme, la création de l'homme par l'homme et un contrôle absolu.
Alors, au niveau politique, bon, on a compris les dangers, on a compris que ça pouvait aussi abîmer la femme. Maintenant, au niveau politique, est-ce que concrètement on peut proposer quelque chose ?
Alors, c'est un très bon... je vous remercie de soulever cette question parce que c'est vraiment vital. Je collabore au sein de Europe for Family, l'Europe pour la famille, auprès des institutions européennes. Et je fais ce constat quotidien de la méconnaissance technologique de nos responsables politiques et de leur nécessaire prise de conscience de ce développement rapide et incontrôlé des technologies transhumanistes. Le rapport Delvaux, dont je vous ai parlé précédemment, en est un exemple. On rentre complètement dans l'idéologie de l'homme augmenté. Il y a plusieurs articles qui illustrent ceci très bien sous couvert de donner ce cadre juridique qui est nécessaire, mais qui ne doit pas avoir la scientifique et le juridique ne doit pas avoir la préemption sur l'anthropologique et le philosophique. Et cette conversation, ce débat n'a jamais eu lieu au Parlement. On voit aujourd'hui des milliards d'euros qui sont versés dans le Human Brain Project par la Commission européenne sans que personne, aucun citoyen européen, n'en soit informé. Et ça, c'est scandaleux. Donc, trois éléments dangereux dans l'usage de ces nouvelles technologies, c'est l'augmentation de l'homme par les modifications génétiques avec la manipulation de ce que j'appelle l'embryon génétiquement modifié. On passe vraiment de l'OGM à l'EGM dans une logique d'eugénisme et de tri, si vous voulez, de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le clonage, les chimères et l'utérus artificiel, je mets ça un petit peu dans le même sac, mais sur le clonage, on voit bien que la convention d'Oviedo et précédemment la conférence d'Asie Lomar pour les modifications génétiques ont été totalement inefficientes à mettre des moratoires et des interdictions fermes sur le clonage, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des cellules embryonnaires qui ont été développées et qui ont dépassé 15 jours de développement dans la boîte de Pétri, donc en laboratoire. Et puis l'autre point qui est l'intelligence artificielle et les humanoïdes, qui est donc plus en plus des apparences, et en particulier des apparences féminines. C'est très intéressant parce qu'on utilise beaucoup l'être femme, l'identité féminine, pour faire en sorte que l'humain se sente bien avec la machine. Une banque de gènes, par exemple, en Chine, vient d'ouvrir. Elle répertorie 1 million d'ADN. Et elle a pour vocation de devenir le Google de l'ADN. Donc quand les Chinois se mêlent de quelque chose, quand on sait le personnalisme qui les habite, pour eux la vie humaine n'a pas du tout la même valeur culturelle que nous, on a lieu vraiment de s'inquiéter. Donc moi j'ai trois propositions qui sont, un, de créer des consortiums scientifiques. Il en existe déjà, mais ils sont tous taxés de bioconservateurs, donc des gens qui sont contre tout, ce qui n'est pas mon propos bien entendu. Les bioconservateurs américains par exemple, comme Francis Fukuyama, prône l'intervention militaire pour stopper le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit en arriver là ? Je ne sais pas. Toujours est-il que si les scientifiques et les philosophes et les anthropologues et les gens qui savent réfléchir, et l'Église bien entendu, toutes les religions, ne s'assiedent pas à la table, nous allons dans l'impasse, tout directement. L'autre point est plus culturel. Les trois points que je propose, c'est réaffirmer la beauté de l'être femme. Et donc ça, c'était l'objet de tout mon travail jusque-là. Et beaucoup de gens sont en route aussi. Le pape François dit, à cette citation que j'aime énormément, les femmes sont le plus fort antidote contre l'égoïsme et l'individualisme. Elle porte témoignage à la beauté de la vie. Une société sans mère est une société inhumaine, car seules les mères peuvent montrer leur tendresse, leur dévouement et leur force morale. Alors messieurs, n'en soyez pas choqués, excusez-moi, mais merci pour ce crédit à porté à la femme. L'autre point sur le plan culturel, c'est de réaffirmer la complémentarité homme-femme. C'est ce qu'a fait la Manif pour tous et toutes les mouvances qui en ont découlé, et elles sont complètement internationales maintenant. Un être sexué n'est pas la totalité de l'espèce. Nous avons besoin de l'autre sexe pour produire le semblable. Et enfin, lutter contre la dématérialisation du biologique.
Alors, je vais peut-être, à l'issue de cette émission, rappeler le titre de votre livre, Laetitia Pouliquen, Femmes 2.0, féminisme et transhumanisme. Alors, vraiment, vous nous avez donné envie, par vos propos ce matin, de lire ce livre. Merci en tout cas du travail, non seulement de pensée que vous faites, mais aussi d'engagement politique. Et bien sûr, chaque citoyen est appelé à se former par rapport à cette anthropologie qui se développe, ou ce courant, et aussi au niveau politique, parce que je crois qu'en Belgique, en tout cas, on ne s'engage pas forcément en politique. Les politiques aussi sont appelés à se former, ça c'est vrai, hein.
C'est tout notre rôle auprès d'eux.
Voilà. Eh bien, un tout grand merci et bon travail.
C'est moi qui vous remercie.